Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort. Le podcast du jardin. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast de l'année 2024. On est évidemment ravis de vous retrouver. Bonne année, tous nos meilleurs vœux, évidemment, enfin tous mes meilleurs vœux. Eric, j'en sais rien, qu'est-ce que tu vas nous souhaiter? Bonjour Eric.
Bonjour Brice, mes meilleurs vœux, le plus important c'est quand même la santé, hein, même si le jardin c'est important, ce qui est quand même plus important c'est quand même la santé et la rigolade, hein, parce qu'après le jardinage c'est que de l'amusement. Hein.
On est d'accord, c'est du loisir évidemment. Ouais. Alors on va faire comme en radio, on souhaite bonne année, mais on s'est parlé évidemment avant d'ouvrir le micro. En tout cas, alors c'est vrai que je l'ai pas beaucoup fait en fin 2023, mais je tenais évidemment à te remercier au nom de tous les auditeurs, et puis moi en premier pour cet engagement. Je crois que ça fait 5 ans, on doit être à 700 000, un peu plus de 700 000 écoutes. Premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast très régulièrement. Donc 1000 merci de continuer à partager ce podcast, à noter ce podcast, à en parler autour de vous. On vous prépare une surprise, on vous en a parlé. Allez, on dévoile un truc. Ça sera des pages à tourner. Voilà.
Les pages de notre vie.
Les pages de notre vie à tourner. Rendez-vous le 14 février dans une librairie, a priori. Bon, voilà. On vous en parlera, bien sûr. Et donc, mille merci encore une fois pour ton engagement. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a eu quelques... Alors, les auditeurs sont en vacances et sont un peu moins actifs au niveau des questions. Mais on va en traiter, il y en a 5, là. On va en parler, justement, avec notamment, et encore une fois, des questions d'aménagement. Ça revient beaucoup et on voit que, tout doucement... ta position et ce que tu défends, c'est-à-dire du végétal, infuse, en tout cas chez nos auditeurs. Et c'est assez intéressant parce que ça transmet quand même et ça transpire quand même une certaine... et ça révèle quand même une certaine prise de conscience, en tout cas dans notre tout minuscule microcosme là avec nos auditeurs et ce que tu nous... ce que tu nous avances, en tout cas, comme argument. Donc, c'est bien, bien intéressant. Et puis, tiens, 2024, on peut peut-être appeler aussi à... les élus qui nous écoutent, alors des petites ou des grandes ou des énormes métropoles ou villes ou villages, ça peut être intéressant aussi d'avoir leur retour d'expérience. On sait que toi tu es consultant, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités, tu es également formateur CNFPT, c'est ça Eric?
C'est bravo.
Donc les agents publics. Et c'est vrai que ça serait intéressant aussi que ces personnes qui sont en charge, par exemple, de la gestion des espaces verts ou de la prospective, entre guillemets, ou de l'aménagement, nous fassent des retours en nous disant « Ouais, mais c'est bien beau ce que vous dites, mais là, il y a des difficultés. » Ou au contraire, moi, j'ai fait ça dans ma commune. Envoyez-nous, par exemple, des exemples. Ça peut être très intéressant, ce partage d'expérience. Qu'est-ce que t'en penses, Eric ?
C'est une bonne idée. Hein, si ce matin, j'écoutais la radio et malheureusement, les grosses catastrophes... dans le nord de la France, avec des gens qui sont inondés pour la troisième, voire je ne sais plus combien de fois depuis quelques années. Et là, il y a des grandes mesures qui sont proposées de dire, il faut remettre des haies, il faut végétaliser. Une personne se plaignait de dire, c'est bien, mais derrière maintenant, j'ai un nouveau grand parking imperméable qui fait...
Dis rien au hasard avec du macadam partout, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Voilà,
oh, donc, c'est fou, ça
c'est... Et donc c'est dingue. C'est quand même fou de retourner sur des bases, de dire alors il y en a qui disent qu'il faut curer les rivières, alors sûrement peut-être, j'en sais rien.
On salue Xavier Bertrand.
Je suis pas spécialiste.
T'as écouté la même séquence toi, Eric.
Ouais, c'est ça. c'est Et ça. C'est peut-être, mais bon, le but du jeu c'est pas que l'eau aille le plus vite à la mer, en sachant que quand il y a une forte marée, on fait remonter l'eau, c'est pas ça le but du jeu, hein. C'est pas le fait de faire évacuer l'eau au maximum, c'est plutôt que l'eau puisse s'infiltrer au maximum dans un espace. Et comme il y a pas mal d'acteurs, et notamment Francis Allais le dit au niveau de la forêt, la forêt c'est une véritable éponge, hein, mieux qu'un terrain agricole, et surtout mieux qu'une zone imperméable. Donc quand on voit que dans une forêt, il y a des fois le sol c'est 80% de trous. Donc ça montre bien qu'il y a une capacité, je dirais, à prendre la flotte et puis après tout doucement de la libérer le plus profondément possible. Donc voilà, hein, la végétalisation qu'on parle un peu partout, si chacun dans son jardin, dans son espace, il est capable aussi de le faire, bah, ces micro-parcelles feront que c'est plus facile quand il pleut, parce que là, le problème de l'inondation, c'est parce que le sol est gorgé d'eau. Donc ça veut dire tout simplement, ben, une fois que le sol est rempli d'eau, ben, on ne peut plus voilà, mais... l'eau de surface. Alors en plus, ce qui se passe, c'est que là, ben, dans le monde agricole, par exemple, ben, les crues comme ça appauvrit les sols, hein, parce que la meilleure couche de sol va partir.
Elle est au-dessus, quoi. Hein.
Part avec, ouais. Donc voilà, tous les gros efforts que de fertilisation. Alors malheureusement, ceux qui travaillent bien pour la conservation des sols, bah, ils sont loutis au même endroit, quoi. C'est-à-dire que eux aussi vont avoir peut-être un peu moins, ils vont peut-être moins souffrir de l'après-cru. Mais quand il y a trop d'eau, il y a trop d'eau, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas possible de pouvoir voilà, continuer comme ça. Donc là, tout le monde est dans. Quand il y a une grande crue, de toute façon, ceux qui travaillent pour la conservation ou qui ne travaillent pas, en mettant beaucoup d'engrais de synthèse.
Ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Moi, j'ai juste une question. Et on salue bien sûr les clients et toi, tes contacts qui nous contactent par téléphone, ouais. Qui nous envoient des messages pendant qu'on enregistre ce podcast. Mais c'est ça, la vie de bureau. Ouais. On ne vous cache rien. Juste une question, Eric. Est-ce que ce n'est pas un peu trop, béni bibi ou bisounours, ce que tu nous dis là? Et je
volontairement. Ah, bah, sûrement. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit dans du bisounours. Hein.
Non mais Eric, en gros, est-ce que ton argument en disant oui mais bon le parking au bout d'un moment, oui mais là il y a tellement de quantités impressionnantes de flotte qui font que est-ce que c'est finalement le parking qui va changer? Et d'un autre côté tu vas me dire oui mais est-ce que au final ça plus ça plus ça, enfin,
c'est l'addition.
Donc la question qui se pose véritablement c'est est-ce que se dire oui, aujourd'hui, il y a un vrai problème sur l'artificialisation des sols. On salue d'ailleurs certains présidents de région qui disent moi, ça sera zéro artificialisation nette. Moi, j'en veux pas. Hein, c'est la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Avec des remises en cause où il y a des textes qui disent maintenant, on arrête d'artificialiser. Si on artificialise, on est obligé de débitumer ou désartificialiser des zones. Il faut regarder concrètement ce que ça donne, parce que quand tu construis et des hangars, et des parkings, et des zones commerciales pour toujours dépenser plus, y a une vraie remise en cause aussi, parce que c'est du frein au développement, c'est du frein, et on voit aujourd'hui tout le débat qu'il y a sur des nouveaux tronçons d'autoroute, ou notamment du côté de Toulouse, hein, je crois, c'est la 89. On voit les problématiques qu'il y a et l'opposition des riverains à juste titre, ce n'est que mon avis, mais à juste titre sur un certain nombre de choses. Et puis d'un autre côté, t'as les politiques qui disent ouais, mais attendez, nous ça permet de désenclaver le territoire parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus rien chez nous. Et quand tu mets de l'autoroute, tu mets finalement aussi de l'activité économique et tu peux pas laisser crever, pardonnez-moi l'expression, une région. Donc c'est compliqué aussi, Eric.
Oui, non, mais de toute façon, c'est un problème qui est compliqué. Je suis pas complexe, mais compliqué. La complexité, peut-être que ça sera mieux. Ça veut dire qu'il y a discussion quand on parle de choses complexes. Hein. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on discute après en ce moment. Donc, c'est dommage. Moi, je suis plutôt pour l'action que la discussion. Mais il faut quand même discuter, hein, parce que chacun, dans son domaine, fait ce qui est au mieux. Mais le problème, c'est pas des décisions au mieux. C'est pas l'addition de décisions que les gens, parce que je crois que tout le monde essaye de faire le mieux possible, mais des fois, même des décisions qui paraissent très bien dans un service, peut-être que quand on additionne avec d'autres décisions, d'autres services, c'est pas forcément les meilleurs, quoi. Donc peut-être là à voir, mais bon, ce qui est clair, c'est que avant, y avait toutes les zones marécageuses qui servaient de zones tampons. Alors aujourd'hui, on appelle plutôt ça des bassins de rétention, des trucs comme ça. Mais peut-être se poser des questions ainsi à ce niveau-là, peut-être que ça coûtera peut-être moins cher de laisser des zones, à la nature, tout simplement, sans culture, parce que les inondations, ça coûte des sommes complètement dingues, hein, et puis après des malheurs chez les uns et les autres, hein, on voit bien, hein, une personne, ça fait trois fois, comment, psychologiquement et nerveusement, un peu résister. Voilà, parce qu'après, dès qu'il va pleuvoir, la moindre goutte,
peur de la pluie.
Donc peut-être que des fois, de libérer des zones, de dire, tant pis, il n'y a pas d'activité, entre guillemets, économique, il n'y a pas d'économique, Mais en réalité, il y a de l'économie quand même, parce que s'il y a une zone qui est capable de, justement d'éviter de dépenser par les assurances, d'avoir des... Bah, peut-être, il y a des choses comme ça à imaginer, hein, à mon avis. Hein,
ouais, voilà. Mais ça, là tu parles au long terme. Mais on
sait long terme, bah oui, parce que ça va... Ça
le
va...
temps écologique n'est pas forcément le temps du politique.
Exactement, voilà. Bon, mais pendant ce temps-là, c'est sûr que quand on voit le dernier sondage sur la préoccupation des Français et qui disait que plus de 54% des gens sont optimistes pour 2024... ils sont optimistes, mais le point biodiversité, nature, il est bien loin devant les préoccupations de travail,
d'inflation, de pouvoir d'achat, etc. Bien voilà. Sûr.
Ouais. Mais peut-être que si on prend dans l'autre sens, peut-être que justement, ça permettrait peut-être de régler les préoccupations des gens. Quoi. Je sais pas.
Et il y a un autre point aussi très très rapidement, et on fermera cet édito là-dessus, qui est parti effectivement sur la question de l'artificialisation des inondations. On le sait. Alors il y a une ministre du logement qui a dit la maison de demain, le pavillon résidentiel, c'est plus l'avenir. Il faut concentrer les populations. Nous sur Colmar, on a un énorme quartier maraîcher au sud de la ville de Colmar qui est en train d'être bétonné, mais jusqu'à la dernière parcelle où il y a des champs entiers de ce qui était à l'époque des salades, des choux et des carottes qui sont en train d'être massacrés en construisant dessus. Mais d'un autre côté, on dit qu'il faut densifier, de l'autre côté, on râle. Et voilà, quand on réartificialise et quand on artificialise, quand on construit évidemment des blocs qui font 50, 60, 100. Sans appartement de haut standing aussi, forcément la flotte, une fois qu'elle est là, elle descend pas quand il y a des inondations. Donc c'est tout le problème. Alors que le pavé, parce que le pavillon, si tu prends une parcelle, bon, on est plus en 3-4 arts, mais entre 3, 4, 5, 6, 10 arts, on sait très bien qu'on met que 2 à 4 personnes dessus. Donc sur cette même parcelle, on peut mettre beaucoup de personnes. Donc il y a aussi un énorme défi là-dessus pour essayer de trouver le juste milieu.
Complètement. Mais de toute façon, c'est pas nous qui allons régler ça dans notre podcast.
On est d'accord.
Et voilà, parce que là, il faut des fois qu'on revienne à notre.
Mais l'idée, il faut qu'on en discute aussi.
Mais c'est important que les gens réfléchissent et surtout, il faut pas prendre ça négativement, quoi. Je veux dire, la réflexion n'est pas négative. Là aujourd'hui, on n'arrête pas de râler, mais peut-être, chacun, faut peut-être qu'on réfléchisse chacun de notre côté. C'est ça qui est important. Et au bout d'un moment, quand on comprend mieux, grâce à l'action, plus seulement la thématique jardinage, c'est quand même la meilleure chose. Hein. Mais souvent, les gens ne se rendent pas compte que le petit jardin qu'ils ont devant chez eux, ils ont aussi une responsabilité et peuvent être acteurs aussi de leur parcelle, de leur territoire, de leur terroir. On parle souvent de terroir. Et ça, c'est important. Mais ce qui est, de toute façon, ce qu'on n'aura plus le choix, c'est... il faut absolument végétaliser les zones qui peuvent paraître, l'autre fois j'étais long, je vois les longues des autoroutes, mais c'est d'un ridicule total, de pas laisser en forêt, sauf sécurisation, hein, bien sûr, hein, faut que la sécurité, c'est important. Mais là, je voyais des gens qui broyaient, les espaces, tant mieux, ça lui fait du boulot, la personne, mais ça serait quand même mieux que ça soit planté d'arbres, hein, franchement. Ça serait quand même plus efficace, en sachant que l'herbe, la fauche, tout ça, c'est intéressant. Mais il y a peut-être des zones dans la commune, dès qu'il y a une zone, faut planter, quoi, franchement.
Et là, de l'arbre.
Et voilà, faut planter des ligneux,
de l'arbre, à minima de la prairie,
oui.
Voire la prairie fleurie, voire la prairie de fauche.
Enfin, bien sûr.
En gros, l'idée, alors il y a un terme, j'ai lu encore hier soir dans un article le terme de réensauvagement. Alors ouais. Ça fait un peu très ça fait très écolo délinquance,
ouais.
Non, écoterrorisme, tu
ouais,
sais
oui, c'est ça.
Le terme, dis donc, on est polémique aujourd'hui, est politique, ouais. Non, mais tu sais réensauvagement, voilà, mon Dieu, c'est des sauvages. Non, c'est juste de laisser la nature lui foutre, ouais. Après, quoi.
Non, parce que
c'est
de toute façon, il y aura des plantes qui vont pousser, hein, et les plantes qui vont s'installer toutes seules, voire même aider ces espaces à mettre des plantes plus locales, même s'il n'y a pas le côté esthétique. Mais et de toute façon, le côté vert sera toujours plus esthétique. Donc il ne faut pas se prendre pour la tête. Et puis surtout, il faut que ça soit des zones sans entretien, sauf sécurisation.
Ouais. Sauf sécurisation, c'est ce que je disais. Un point, Eric, et vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit là pendant 10 minutes.
Oui, voilà. Mais...
Dites-le nous, ça nous intéresse. Et aussi, peut-être l'avis encore une fois, j'en appelle aux collectivités et aux élus locaux qui peuvent nous écouter en nous disant oui, mais nous, on a un problème, il faut qu'on loge des gens. Et d'un autre côté, voilà. Mais ça nous intéresse. Ouvrons le débat. Un point rapide sur le météo. Tu disais les sols sont gorgés d'eau.
Ouais, la gorge, gorgée,
évidemment. Évidemment, on fait rien. Suite à ces, j'allais dire, à ces sols qui sont totalement gorgés d'eau, qui n'absorbent plus, il y a la question derrière du froid, du grand froid qui va arriver sur une grosse partie du pays la semaine prochaine, avec des températures négatives, voire même la journée. Eric, est-ce que c'est grave ?
Bah oui et non, hein, je veux dire, bien sûr, dans une situation dite normale, hein, bah là, ça va limiter. Déjà, on est limité en plantation, mais on va être en aménagement. Bah, plus les grands froids, là, on est complètement arrêté pour faire ça.
Alors, oui, mais je veux dire, est-ce que c'est grave pour notre jardin ? Et
non, en fait, pas plus que ça. Bon,
j'attendais la réponse, mais non, enfin, on a du froid.
Oui, ouais, voilà, tout à fait, elle a du froid. C'est, voilà, on revient dans une situation normale en sachant qu'il y a beaucoup de plantes qui avaient vraiment bien démarré. Hein,
ouais.
Moi, je prends toujours le critère géranium en Alsace sur les bords de fenêtres qui sont encore corrects. Donc voilà, alors qu'il devrait déjà mourir depuis longtemps.
Depuis longtemps, oui, on est début janvier, on est
début
d'accord.
Janvier. Donc voilà, non, c'est bien. Alors je dirais, bon, par contre, ça immobilise le jardinier pour voilà, les actions. Alors après, on dit il faut planter à l'automne. C'était compliqué de faire des plantations à l'automne, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Hein.
Ouais.
Même les situations de taille, on taillait pas, parce que c'est pas parce qu'il faisait froid. C'est parce que le sol était tellement gorgé d'eau que quand tu en allais dans le jardin. Donc là aussi, hein, les couvertures de sol sont importantes. Bah, si on a un terrain qui est un peu paillard, alors le but du jeu, c'est pas avoir 50 cm de paille, hein, ou de broyat, ou de déchets, ou de feuilles. Si on a des parcelles qui sont engazonnées, végétalisées, bah, on peut plus facilement rentrer dedans, je dirais, pour s'occuper des arbres, alors que quand c'est de la terre, bah, c'est terrible, quoi. Donc là aussi, il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus, sur son propre jardin. Donc voilà. Mais bon, là, on est tranquille. Voilà, je dirais, si ça continue comme ça, on est tranquille jusqu'à fin février. Hein.
Jusqu'à fin février, vu évidemment les conditions météo qu'on peut avoir. Bien. En tout cas, Eric, ce qu'on va se dire là, aujourd'hui, c'est bien sûr un petit tempo. On va parler de multiplication par division. C'est pas diviser pour mieux régner,
non,
c'est
voilà,
pour voilà, multiplier gratuitement. C'est ça, Eric ?
C'est ça, la multiplication, parce que souvent, dans la multiplication, on parle souvent de bouturage, marcottage, de greffage. Mais il y en a une qui est quand même la plus simple au monde, c'est quand même la division, hein, qu'on fait sur de nombreuses plantes. Et je donnerai quelques exemples de plantes qu'on peut facilement multiplier, et ça jusqu'à début mars.
Bon, donc on est largement dans le tempo, même si encore une fois, quand il fait froid, on ne plante pas, quand il fait froid, on ne taille pas, quand je dis il fait froid, quand c'est négatif. Hein,
ouais, c'est négatif, hein, bien sûr.
Bon, voilà, après, ça a du bon, parce que toutes les mauvaises herbes, entre guillemets, annuelles, ça va faire un petit coup de,
oui,
un petit coup de propre quand même.
Oui, c'est ça.
Au jardin,
puis,
donc
voilà,
c'est bien.
Puis ça va freiner un peu la végétation, quoi.
C'est bien que ça gère.
La végétation, c'est que qu'elle se réveille, ça pose pas un problème, mais c'est qu'elle se réveille, et quand elle va se réveiller, il se prend un coup de froid. Là, c'est embêtant.
C'est ça. On est d'accord. Le tempo globalement, hein, on bouture, on divise, on en a
voilà,
parlé, on taille, on plante.
Voilà, ouais. C'est ça. Hein, voilà,
la même chose.
On est dans le triptyque. Hein, voilà, plantation, taille, multiplication, hein, et notamment bouturage. Mm-hmm. Voilà. Et puis après, pour le sol, ben, on entretient son sol. Hein. Là, il y a des bons coups de vent, donc voilà, il y a pas mal de choses à broyer peut-être. Il y a peut-être des feuilles à remettre, voilà, des choses qui sont un peu cassées la figure. voilà, c'est. On est dans une activité, je dirais, simple,
oui,
mais efficace, si on peut aller dans son jardin.
Allez, en tout cas, voilà le programme des festivités qui vous attend, vous qui nous écoutez, pour commencer tout doucement l'année, et puis aussi une part de réflexion. On a parlé de mare il y a quelques semaines, on a parlé de SH, de prairie. Ça, c'est pas maintenant qu'on le fait évidemment, mais on y réfléchit éventuellement au coin du feu ou le soir en devant la télé, entre guillemets. L'idée, c'est de, ou en lisant un bouquin évidemment, mais l'idée, c'est d'apporter un petit peu de réflexion et de se dire, voilà, maintenant je suis posé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en termes d'aménagement, parce qu'une fois que ça démarre en général, et on ne sait pas, ça se trouve, on va avoir un mois de mars très printanier, très chaud, ça se trouve, on va avoir un mois de mars très froid et on va commencer la saison que début avril, ça on ne sait pas, mais là l'idée, c'est de se mettre en ordre de marche, évidemment, pour que toutes les choses soient claires et qu'au final, ça avance quand même assez vite. Eric, je te propose de passer aux questions.
Parfait.
Et ben voilà, on va passer à la première question qui vient de Rudy qui nous dit: bonjour chers experts du jardin et meilleurs vœux. Nous venons de faire l'acquisition d'une maison de vacances en bord de mer dans la baie de Somme. Le jardin n'est pas très grand, à peu près 250 mètres carrés, exposé plein sud, bordé de deux haies de thuyas que j'envisage de supprimer. Elles sont énormes et commencent à roussir, mais cachent bien les voisins. Quelques questions. Est-ce que c'est une bonne idée de les supprimer?
Bah oui, de toute façon.
Eric, il va dire de toute façon, il n'aime pas les tuyas.
Non,
Donc,
c'est pas. Non, pas du tout.
bah,
Hein.
bah,
J'aime bien
bah,
le
bah,
tuyard,
bah.
hein, mais. Non,
Mais
mais
loin.
c'est. Ça va. Ils vont mourir, donc il faut attendre les faire quand le sol est justement bien meuble.
Ok.
Donc voilà, c'est important. Alors, soit on peut rentrer avec un équipement qui nous permet d'enlever jusqu'à la racine, hein, je dis toujours. Ou soit, si c'est pas possible, bah, de les tronçonner
Ouais,
avant. Voilà.
des copains et puis des bières, quoi.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc on va là, le principe c'est de pour couper, c'est de si vous le coupez sur place, c'est de bien d'enlever le maximum de terre à la houe, c'est-à-dire de racler le sol de manière à arriver sur les premiers démarrages des racines principales, et puis après de passer un coup de tronçonneuse, voilà, et
Ok.
après d'y planter à côté ou entre, hein, voilà, tout dépend la distance de plantation initiale des tuyaux, voilà.
Bon. Deuxième question, me conseillez-vous de broyer les tuyas afin d'ajouter un peu de végétal à ce sol très sablonneux?
Non, c'est-à-dire que, alors, s'il y a un
Ça fait
peu de
beaucoup là,
tuyas,
Eric, hein?
et puis en plus c'est un bois qui est très très dur, donc il faut un système de broyage qui soit hyper puissant. Donc autant d'aller voir sa déchetterie, entre guillemets, parce qu'il faut les rencontrer avant, de dire, bah voilà, parce que souvent il y a des quantités qui peuvent être 1 mètre cube, 2 mètres cubes, le nombre de passages dans la journée, et de dire, bah voilà, et exceptionnellement, souvent les déchetteries autorisent, je dirais, le fait de venir à plusieurs fois, mais globalement, il faut prévenir avant. Déjà, un, c'est pour être dans le respect, je dirais,
Oui, des bonnes
des
pratiques,
bonnes
quoi, en gros.
pratiques, et
Ouais.
puis surtout, c'est pour que la déchetterie puisse dimensionner justement la rotation, si c'est par exemple un ramassage par benne. Si vous venez avec, je sais pas combien, avec un alignement des fois de thuyas, ça remplit très vite la benne. Et ça fout le bazar, je dirais, dans la rotation des bennes déchets verts, par exemple.
Ouais, donc appeler ou
Oui, allez
passer
voir
juste pour dire,
votre.
voilà, j'ai un
Voilà, de dire, bah
apport.
voilà, après, peut-être qu'ils vous diront, bah, il y a un surcoût, mais le surcoût est vraiment tellement négligeable par rapport je dirais, au service que ça vous rend, que bon, voilà. Hein.
Bon, entendu. Troisième question, quelle essence me conseillez-vous pour remplacer ces tuyas? Dans l'idéal, quelque chose dont l'entretien est minimum et qui résiste bien à la sécheresse, car ne seront pas là au quotidien. Encore bravo pour votre podcast qui devrait être remboursé par la Sécu. Le dossier est en cours, Rudy. Signé Rudy.
Bah là, le choix est infini, je dirais. Si vous décalez par rapport à la haie, je dirais, ça peut être très basse avec des petits fruits. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier. Mais là, j'ai bien compris qu'il y avait un besoin de se protéger des voisins. Donc, enfin,
En
de
tout
la
cas, de
vue
les
des voisins.
cacher, pas forcément. Oui, de protéger de la vue des voisins.
La vue des
Les voisins
voisins,
n'ont pas
hein,
l'air
enfin,
agressifs,
il n'y avait
mais
pas de
bon,
souci. Donc
ouais.
là, vous pouvez mettre des petits fruits. C'est simple, hein, si les tuyas avaient été plantés, et comme souvent à l'époque, vraiment à 50 cm, voilà, de chez le voisin, bah vous plantez vos arbres à 80. Donc comme ça vous permet d'avoir un passage de part et d'autre pour ramasser les petits fruits. Moi, j'insiste surtout sur plutôt des petits fruits, des fois qui sont un peu plus grands que le traditionnel groseillier ou cassissier. Ça peut être le cassayer, ça peut être l'aronia. Voilà, ça peut être des plantes comme ça. Et puis aujourd'hui, voilà, dans des variétés extérieures, je dirais, à notre terroir. Mais voilà, quand on est dans un milieu fermé, en ville, dans un village, on peut s'autoriser des variétés, je dirais, qui sont pas forcément traditionnelles. Là aujourd'hui, je peux même pas faire une. Il en sort tous les jours, c'est impressionnant. Alors ne pas oublier, et qu'ils me disent, oui, il faut pas mettre des variétés qui ne sont pas locales. Alors attention, sinon on n'aurait jamais mangé de pommes. De cerises, de ça, tout ça vient de l'extérieur, hein, des abricotiers à une époque. Donc voilà, tant qu'on ne le met pas en pleine nature et qu'on vérifie bien que ces plantes, quand on a des déchets, on les met pas en forêt qui risqueraient de se bouturer, on sait jamais, enfin voilà, se multiplier, et on sait jamais si la plante va pas être envahissante et voire invasive. Mais voilà, autorisez-vous plein de choses. Donc ça c'est intéressant. Donc sinon, si vous voulez être un peu plus haut, ben moi j'aime bien le traditionnel, je veux dire, toutes les plantes, je dirais aujourd'hui, de haies libres. Alors c'est plutôt des variétés horticoles qui en existent, hein. Même ne vous interdisez pas de mettre ici et là, mais il faut pas en mettre qu'un. un feutinia, voilà, des variétés qui sont plus, enfin, qui sont très horticoles. Mais en mélange avec d'autres plantes, ça se passe bien. Donc vous les plantez tous les 1 mètre, 1 mètre 20. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Allez voir votre horticulteur. Hein, pourquoi pas un forsythia inspiré. Revenez sur des trucs traditionnels qui poussent très très bien. Et on a vu qu'il y a quand même une bonne résistance à tout. Parce que c'est des vieux trucs. Et donc, voilà, souvent, ben, ça tient bien. Et puis après, si c'est beaucoup plus grand, mais là, il faut planter à plus de 2 mètres par rapport au voisin. Parce que là, il faut le laisser pousser plus de 2 mètres. Ça sera le traditionnel noisetier, voilà. Même des fois de se mettre des plantes type voilà, néflier, enfin. Voilà, il y a vraiment pléthore. La seule chose qu'il faut, et ça c'est la plus importante, c'est de savoir quelle est la hauteur maximum que vous souhaitez. Voilà.
Ouais, c'est ça.
À l'âge adulte, c'est-à-dire à maturité. Sans intervention de taille, c'est-à-dire sans avoir utilisé le sécateur. Par rapport à la hauteur. Voilà. Et donc, vous allez voir votre pépiniériste, vous dites, voilà, je veux une plante, j'ai décidé de mettre une haie qui va jusqu'à 3, au maximum 3 mètres. Donc, ça veut dire que je plante à 2 mètres par rapport à mon voisin, ou une plante qui ne veut pas dépasser les 2 mètres, mais sans taille. Parce que sinon, vous êtes un peu battu, quoi. Voilà.
Bien, voilà, en tout cas, Rudy, il y a du pain sur la planche.
Oui, voilà, alors... Comme dit, planter tous les 1 mètre, c'est vraiment très très favorable. Et après, ne vous prenez pas la tête, surtout si vous n'arrivez pas à enlever les tuyas avec un système mécanique, parce que des fois vous faites un dégât important.
Ouais. En gros, défoncez pas l'intégralité de votre pelouse ou votre
voilà,
jardin
avec
une pelle job.
Quoi. Voilà, vous avez un sol qui est à peu près de bonne qualité, et puis vous arrivez avec la mini pelle et vous défoncez tout. Voilà. Mmh. Alors après, vous faites comme ma mère qui a un âge infini là. Et qui a enlevé les tuyas un par un à la bêche, quoi. Bon,
à la dynamite. Non, je plaisante. C'est ça, non ?
Pardon ?
J'ai dit à la dynamite, c'est ça, Eric ?
Oui, voilà. Enfin, la dynamite, c'est ma mère. Hein.
Bon, je te propose de passer à la question et à la réflexion de Sandrine qui nous dit « Bonjour, j'écoutais votre émission du 22 décembre et voulais vous faire un retour pour l'auditeur de Carrie. » Qui a des lauriers malades. Même problème pour moi à Marseille, les stacks plus précisément. J'ai bien peur que ce soit un problème du type chaos climatique, désertification de la Méditerranée. On a un laurier de plus de 70 ans, très haut, dans les 10 mètres, magnifique et en croissance depuis toujours, à part un souci de cochenille. Mais nous vivons avec. Depuis 2-3 ans, les feuilles sont vraiment minables, inutilisables en cuisine et l'arbre est en grande souffrance, avec des branches qui sèchent, des belles charpentières qui cassent dans le vent. Plus fréquent et plus fort, des feuilles piquetées ou comme mouchetées de jaune, rabougries et peu développées. J'ai d'abord pensé une question d'âge, j'ai entrepris une taille assez sévère par étapes, puis raccourcir l'arbre et lui permettre de développer ses rejets toujours beaux. Première coupe au printemps, cette année la plus terrible, hein, mais les rejets n'ont pas poussé d'un centimètre et sont malades. D'autres arbres du jardin souffrent de même, notamment le citronnier, les oliviers. Clairement, il y a trop de vent asséchant et trop de chaleur, pas assez d'eau. Les arrosages n'y ont rien fait et les pins, par contre, n'ont jamais été aussi vigoureux. La situation semble très compromise pour un arbre comme le laurier qui aime l'eau. Alors j'ai mis des tuiles, des pierres, des vieux carreaux, des paillages coriaces, hein, laurier, olivier, canne de Provence, partout dans le jardin, pour tenter de limiter l'évaporation et la cuisson du sol par 40 degrés. Parce que ça, c'est un point qu'on revient régulièrement, hein, Eric. Hein.
Ouais, là, oui.
Bref.
Mais le terme cuisson du sol est un très bon terme.
C'est exactement ça, quoi. Et rappelle-nous à partir de quel degré la température du sol.
Température, c'est que, je veux dire, bien sûr, pas forcément en climat méditerranéen, parce que là, les températures, enfin, la végétation est habituée un peu plus, mais globalement, voilà, à partir de 25 degrés, 25, 26 degrés, il y a une
réaction. La température du sol, Eric, on est d'accord.
C'est ça, voilà. Ouais. C'est-à-dire que. Ouais. Il y a une réaction par rapport à cette température. Hein. Donc, c'est pour ça que l'arrosage, c'est une bonne chose, mais ce qui est surtout le plus intéressant, c'est la couverture. Alors, la couverture qui peut être par du végétal ou par du végétal vivant, ou soit par du broyat ou de l'épaisseur. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, quand on crée une haie, c'est pas dérangeant, franchement, non pas de mettre du broyat, qui est bien... mais qui va se décomposer très rapidement. Alors les gens disent non, ça, le broyat, ça résiste, oui. Mais bon, au bout de 2 ans, il n'y en a quand même plus. L'intérêt, c'est aussi de mettre de l'épaisseur. Alors l'épaisseur, par exemple, ça peut être une ronce traditionnelle, hein, je veux dire sauvage, qui fait qu'il y a de l'épaisseur. Alors, bien sûr, il faut la contenir, mais il y a de l'épaisseur sur 10, 20, 30, 40, 50 cm, voire beaucoup plus quand on laisse vraiment un roncier se développer. Mais tout ça fait que le sol est couvert. Donc c'est ça qui est intéressant. D'où l'intérêt aussi, de, quand on coupe une branche, de pas forcément de la broyer, mais de la laisser au sol pour faire de l'épaisseur. Et ça, c'est la meilleure... ça fait un toit au sol, pour faire simple. Le sol n'a pas besoin d'être en pleine lumière, je dirais surtout pas. Par contre, les arbres au-dessus, mais après, les plantes vont pousser très facilement, je dirais, dans cet encombrement végétal. Il n'y a aucun souci, quoi.
En gros, fermez votre sol, quoi. Enfin, couvrez votre sol.
Ouais. Quand on mettait des haies, par exemple, qu'est-ce qui se passait? Bah, les gens, ils plantaient des haies ou ils les rabattaient. Et puis le bois, bah, ils laissaient au sol, non pas à la verticale, mais à l'horizontale. Et ça permettait de faire des barrières. Hein. Voilà, pour le petit élevage ou la séparation entre voisins. Mais ça devient... et le bois, quand il va se décomposer, ça se décompose tout doucement. Mmh. Voilà, ça maintient une certaine fraîcheur et cette espèce de friche, je dirais, qu'on va créer, mais à notre image, c'est-à-dire que les branches peuvent être mises très proprement au sol, mises avec des petites barrières, du plessis, vous faites ce que vous voulez. Là aussi, ça donne de l'épaisseur. Et ce discours-là, il était un peu différent à une époque où on disait qu'un paillage suffisait. Peut-être qu'en bordure de haies où il y a des grands arbres, c'est de leur laisser, je dirais, des déchets végétaux un peu plus conséquents en épaisseur.
Bien.
C'est pour ça que ouais. Moi, je conseillerais à l'auditrice, c'est d'imaginer son jardin avec des haies, mais avec des barrières végétales mortes, c'est-à-dire de récupérer les déchets, les mettre à plat, de redessiner, de mettre des piquets ici et là, et des fois, ça donne... voilà, ça peut donner une belle image, hein, et peut-être que de planter à la base de ces haies sèches, entre guillemets, alors qu'on dit sèche, parce que c'est du bois mort, mais en réalité c'est pas sec du tout, c'est très humide en dessous. Hein. Donc le terme de haie sèche, c'est pas comme un pierrier, c'est vraiment quelque chose qui garde une certaine humidité, et puis là aussi ça peut protéger la base des vents, parce que comme le pied est bien plat. Et quand vous avez des plantes, je veux dire, qui ont du tronc, donc même si c'est une ouverture au sol de 50, 60, 80 cm, 1 mètre, il ne faut pas oublier que là aussi, il y a le vent qui peut passer. Et ça va assécher la partie basse. Donc le fait de mettre des branches aussi sur une hauteur un peu plus haute va vous permettre de créer des pare-vents pour des plantes plus petites et aussi protéger les troncs des attaques du soleil.
Question, je complète un petit peu ce que Sandrine nous dit, hein. Le laurier semblait increvable, mais cette année nous allons l'aider.
C'est curieux parce que ce qui est des fois intéressant, c'est le recépage, hein, c'est-à-dire que ces plantes-là sont capables de se recéper.
On voit bien
dans les régions nord où souvent des fois ils pouvaient geler et repartaient du pied, quoi. Donc le laurier a une forte réaction, je dirais, au niveau du recépage. Il y a peut-être aussi peut-être des maladies avirales ou bactériennes qui peuvent peut-être s'installer dedans. Mais voilà, moi je ferai aussi là encore à cette époque sur les rejets ce qu'on appelle du marcottage, hein, c'est-à-dire de faire des taupinières autour des nouvelles branches qui ont poussé, tout simplement pour qu'il y ait peut-être des enracinements et de manière qu'à l'automne 2024, donc je dis bien 2024, on puisse reprendre ces plantes-là et de les planter ailleurs, quoi.
Bref, nous sommes en train d'installer des carrés potagers de type kayol à son pied, donc au pied du laurier, acheté chez vous et que je recommande, c'est pendant qu'il dit, hein, avec une bonne couche de compost ainsi qu'un paillage de ses feuilles dans les allées, très étroites, toujours pour limiter l'évaporation. Suite au commentaire d'Eric soulignant très justement que même un laurier a besoin de miam, je pense créer un plus... Un petit réservoir, pardon, à feuilles et à compost avec des pierres façon restanque, là où il n'y a pas de carré potager. Nous avons toujours laissé les feuilles au pied, mais il faut augmenter l'épaisseur parce que s'il fait chaud et sec et que plus rien ne se décompose comme avant, hein, parce qu'il fait si chaud et sec que plus rien ne se décompose comme avant. Donc c'est ce que tu disais.
Oui, j'avais pas lu le reste de la question, mais voilà, c'est
voilà. Sandrine a pile poil décrit ce que tu disais.
Il faut de l'épaisseur et c'est ça qui est important, quoi.
Ma question cependant est: combien de temps vit un laurier sauce et y a-t-il espoir que nous le sauvions le nôtre? Il a été planté par mes arrière-grands-parents et avec ma maman nous y tenons énormément, et en plus de nous offrir des feuilles et du bois de chauffage, un arbre c'est aussi de l'affectif et de l'histoire familiale.
Oui.
Je vais sûrement poser des bandelettes pour limiter la pression des insectes comme vous le recommandiez, même si on met habituellement rien du tout dans mon jardin. Alors, je te laisse répondre là-dessus, puis on terminera le propos.
Oui, donc là, le truc, c'est que bon, je vois pas, moi, Laurier Sauce, ça peut durer une éternité, en sachant que comme il redémarre du pied, je dirais presque que c'est infini. Voilà.
Ok. Mais
par contre, pour le côté affectif et faire du bien au moral, comme dit, je redonne le conseil, c'est de pouvoir multiplier cette. Le Laurier Sauce, je dirais justement en faisant du marcottage au pied, hein, mettre de la terre sur des repousses, voilà, de manière à pouvoir attendre une émission de racines. Donc là, il faut de manière à pouvoir après le couper, séparer de plan fil du pied mère et après de le remettre ailleurs, quoi. Ça peut être une solution parce que quand on coupe, quand on fait ça, on revient à zéro au niveau de l'âge de la plante, hein. Donc
ouais, donc c'est ça. Donc on réinitialise,
ouais, exactement,
on remet à zéro, on réinitialise un petit peu le truc, quoi. On est
donc
d'accord.
Moi je ferais ça et puis je mettrais un maximum de déchets au pied de ces lauriers.
C'est ce que voilà. Sandrine disait, ouais.
Alors n'oubliez pas que le laurier c'est une plante allélopathique, hein, c'est-à-dire une plante qui empêche les autres plantes de pousser. Donc on dit souvent que les déchets du laurier évitent de faire pousser autre chose. Bon, moi, je l'ai utilisé sur d'autres secteurs. Bon, ça va. Mais si on laisse au pied ces déchets, ça pose aucun souci, quoi.
Bien. Merci pour vos émissions. Même les jardinières aguerries peuvent récupérer des brides d'informations auxquelles on ne pensait pas et qui peuvent changer la donne. Bonne chance à cet auditeur et à tous les jardiniers de Marseille et aux alentours. Il faut réagir et s'adapter à un rythme affolant. Bonne année 2024. Oui. Hâte de découvrir les nouveautés et de pouvoir acheter le livre amicalement signé Sandrine. Bah, merci en tout cas, Sandrine, pour votre... message. Je te propose de passer à Laurent qui nous dit bonjour et bonne année 2024. J'ai découvert votre blog et votre podcast il y a peu, mais c'était déjà l'année dernière avec grand intérêt. Merci de cette mine et merci pour cette mine de conseils. J'ai commencé à regarder un peu les précédents podcasts à la recherche de conseils pour la taille du figuier. Est-ce une recherche vaine ou est-ce que cela a été traité une précédente année? Je crois pas qu'on a fait, hein, il me semble, Eric.
Non, mais on en parle souvent parce qu'on a beaucoup de questions.
On a beaucoup de questions. Voilà. Mais du coup, Laurent nous pose la question. Comment tailler au mieux un figuier qui fructifie sur les nouvelles branches de l'année? Jusqu'à présent, j'ai taillé fortement en hiver, ce qui me donne une fructification toujours limite pour avoir des fruits mûrs avant que les températures baissent de trop. Merci d'avance pour votre conseil et au plaisir de vous écouter. Signé Laurent.
Bah, le figuier, si on n'a pas des problèmes de place et si on n'est pas producteur de figues, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à tailler, hein, globalement. Et surtout, il suffit simplement d'enlever les branches qui sont l'une sur l'autre.
Ouais.
Voilà. Le reste, on laisse faire. Et puis après, ce qu'on peut faire pour diminuer en hauteur, c'est ce qu'on appelle tailler sur relais. Voilà. C'est-à-dire que on a une branche qui est un peu trop haute et souvent le figuier a quand même une pousse un peu érigée quand même. Et donc de dire on peut recouper sur une branche qui est plus basse et qui va reprendre la place de la branche qu'on a coupée. Voilà, à part ça, c'est tranquille, quoi.
Bon, donc en gros, pas trop de,
non,
pas trop de panique par rapport à ça.
Voilà, alors après, bien sûr, il y en a qui vont le conduire en ce qu'on appelle en CP, c'est-à-dire des branches qui partent de la base, ou il y en a qui vont le mettre sur tige. Voilà, donc... Mais à part ça, globalement, alors bien sûr, je parle pas du producteur, hein, je parle toujours du particulier. Le fait de supprimer les branches qui sont sur l'une sur l'autre, voilà, les petites merdouilles de branches qui poussent, là, qui embêtent toujours l'intérieur, voilà. Mais sinon, cette masse assez importante fait que vous aurez quand même les meilleures solutions.
Bien. Je te propose de continuer avec l'avant-dernière question de Charles qui nous dit « Bonjour les jardinators, je suis dans le Morbihan près de la côte. J'ai deux questions. La première concerne l'ail. J'ai planté de l'ail l'année dernière en serre. Cela a donné des têtes assez petites, mais j'ai eu trop peu arrosé ou trop localement. Certaines têtes d'ail se sont perdues dans le paillage et en fin de saison, la terre a bien séché. J'ai repris l'arrosage et plusieurs petites têtes ont germé. Ça fait des bouquets de tiges vertes, mais dois-je les éclaircir et si oui, jusqu'à quelle taille peut-on repiquer ?»
Là, c'est, je veux dire, le principe, c'est que moi aussi, ça, je le faisais sur un secteur de mon jardin, c'est-à-dire que je laisse l'ail pousser tous les ans. Et c'est ce qu'on appelle. Alors, c'est vrai que nous, par exemple, en Allemagne, on appelle ça le jeune ail.
Avec l'accent, ça fait jeune ail.
Le jeune ail, oui. Et donc, le principe, c'est que souvent, on mange c'est la gousse qui est toute fraîche, qui est toute molle, et la tige qui est au-dessus, quoi. Voilà.
Oui, mais c'est ce que dit Charles. Hein. Sinon, peu importe, je consommerai le verre avec plaisir.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment.
En gros, vaut mieux le prendre comme ça en jeune ail, quoi.
Ouais, c'est ça en jeune ail et comme si c'est un peu comme du poireau perpétuel, si vous voulez. Comme il y en aura toujours dans le sol, tous les ans vous aurez de ça. Et souvent, ça s'est passé comme ça. c'est que les gens, ils ont mis de l'ail même de printemps, et ils étaient tellement déçus par la pousse qu'ils l'ont oublié, quoi. Et alors moi, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, bah faut que je vais en remettre. Bah, je dis oui, vous pouvez en remettre. Mais par contre, il faut le mettre dans des bonnes situations pour que vous soyez heureux dans votre production. Par contre, l'ail que vous avez mis précédemment, laissez-le comme si c'était un parterre d'ail, pour faire simple, et que vous récoltez. Donc, ça fait un peu un ail perpétuel, si vous voulez. Vous enlevez au fur et à mesure, et vous pourrez le manger à différents états. C'est-à-dire l'état quand c'est jeune ail, avec la pousse verte qui est au-dessus. Et puis, la situation où ça sera l'ail qui va rentrer en dormance. Et vous la mangez. Et vous, ce que vous pouvez, vous gratter au sol, vous récupérez quelques bulbes, et vous la mangez comme ça.
Jeune ail, ouais. Voilà.
Non, mais franchement, et là, c'est un ail qu'on digère très très bien, on peut le manger tout le temps, la tige est mangeable, mais c'est une autre gestion de l'ail.
Bon, en tout cas, ouais. Voilà d'autres pistes pour réutiliser d'une ouais. certaine manière.
Et là, pensez surtout, parce qu'on dit que l'ail n'aime pas la déchets organiques en décomposition,
ouais.
mais vous pouvez mettre du foin dessus, un déchet qui se décompose. Voilà, un peu aéré, hein, un peu de paille, ça pose aucun souci, au contraire, ça va faire grossir l'ail. Hein. Ce que l'ail n'aime pas, c'est être dans une situation où le déchet en présence du bulbe est en décomposition. Mais le reste, voilà, vous pouvez... J'ai un copain qui avait mis de l'ail comme ça, il avait mis du foin, il avait simplement écarté le foin, et puis il avait balancé ses gousses d'ail comme ça, enfin, ail de production. Et en fin de compte, ça avait donné quelque chose d'assez assez merveilleux. Quoi.
Et on notera bien sûr notre merveilleux accent allemand. Deuxième question, j'ai commencé à mettre de la paille des poules avec leur déjection sur mes planches de culture pendant l'hiver. Ouais. Un maraîcher m'a dit que le fumier de poule est trop vite consommé.
Ouais.
C'est vrai que l'année dernière, les tomates sont parties d'un coup, mais ouais. n'ont pas tenu sur la longueur.
Ouais.
Alors du coup, petit rappel sur les fientes de poules, hein, faut-il en mettre beaucoup ou plus régulièrement? Y a-t-il un classement des fumiers,
oui.
on nous dit, sans viser personne, en fonction de leur qualité, de vitesse et de dégradation et de consommation? Juste avant de redonner la parole à Eric, rendez-vous sur notre blog « Quel fumier choisir ?» Tu avais fait un article sur justement les sangs desséchés, la corne, la fiente, etc. Donc rendez-vous sur notre blog aussi, mais petite piqûre de rappel.
Oui, donc il faut savoir que la fiente de poule, hein, c'est vite consommé, comme le dit l'auditeur.
C'est très azoté.
Ouais, c'est très azoté et souvent c'est source de maladie parce que la plante prend tellement qu'elle pense qu'à pousser et pas se protéger. Donc ça fait des pousses infinies. Alors, surtout si le sol a une capacité à laisser bouffer par la plante, hein, l'azote, hein, donc c'est important. Pour ça que souvent la fiente de poule, ce qui peut être intéressant, c'est de le composter, c'est-à-dire de le mélanger avec de la matière organique grossière, donc du carbone pour faire simple, avant de l'utiliser de manière qui est cette bonne assemblage qui se fait pour former ce fameux humus, quoi. Voilà. Hein, donc plutôt du compost. Hein.
Donc l'idéal,
c'est des fois de passer par le compostier, voilà,
ouais.
en mélange avec des déchets grossiers, des feuilles par exemple, du broyat. Comme ça, on a justement l'activité du compost va faire que ça va permettre de donner un équilibre et d'homogénéiser tout ça. Voilà, ça c'est le mieux. Pareil pour ceux qui ont. Alors, je sais que maintenant on n'a plus un cochon au fond du jardin, hein, mais fientes de porc, tout ça. Bien sûr, le plus équilibré, c'est quand vous avez par exemple du fumier de vache ou du fumier de cheval. Là, c'est le top, quoi. Bien que là aussi, il faut le composter dans un premier temps pour éviter que l'azote part au niveau atmosphérique ou lessivé par les pluies. Là, en plus...
Surtout en ce moment,
oui. Vu ce qu'il a plu, c'est important. Mais dépendre tout de suite du compost, par exemple de la fiente, hein, qui n'est pas un compost, c'est ce qu'on appelle un peu un engrais coup de fouet. C'est comme si vous faisiez pipi, je dirais, au pied de vos plantes, pour faire simple. Mais encore plus fort, quoi. Parce qu'il faut oublier que dans la fiente... Il y a l'urine et les fesses. Quoi.
Et les déjections, effectivement. On va juste peut-être à se noter, Eric, si tu es motivé, parce qu'on n'a jamais fait d'article et on n'a jamais fait de pipi dans l'arrosoir. Tu nous en parles en fil
oui,
rouge, mais
oui,
ça serait peut-être intéressant de se dire, comment on les utilise.
Tout à fait.
Hein, parce que je dis toujours un pipi dans l'arrosoir, oui, mais pourquoi? Alors, je vais juste revenir sur les fientes de poules fraîches. Quand tu dis faut les composter, combien de mois? 4, 6 mois?
Bah, l'idéal, c'est que vous mettez de la matière organique, voilà, et
Ok.
quand vous retrouvez plus cette matière organique grossière, c'est que c'est bon.
Donc, en gros, quoi? Un peu des feuilles, c'est
Ouais,
ça? Là,
voilà, les 6 mois
il nous en
sont
reste encore?
obligatoires. Je dirais qu'il faut 6 mois
Ok.
obligatoires.
Et après, quand tu disais la fiente de poule, c'est un engrais coup de fouet qu'on peut effectivement acheter
Ouais.
aussi dans le commerce, mais qui est une fiente qui est traitée
Ouais.
aussi, donc d'une certaine manière, entre guillemets, désinfectée d'une certaine
Ouais.
manière. Attention aussi, on évite de mettre, alors autant sur le pied, alors au pied des tomates, ça sert pas à grand-chose parce qu'encore une fois, comme nous dit Charles, elles vont monter, mais sur des choses coup de fouet comme des choux, par contre, sur des salades, sortez pas la fiente
Non,
pile
voilà.
poil du pondoir et ne les
Non.
mettez pas au pied des salades parce qu'en
Et
termes
voilà.
de.
De toute façon, le réflexe, faut se dire,
C'est
c'est
pas
que
clean, quoi.
aucun déchet organique type fiente, au
Ouais.
caca, pour faire simple, hein, pour les poules,
Ouais.
directement sur un végétal.
Ok.
Il
Point.
faut le pas faire passer. Ouais, c'est même la vache. Hein, il faut le faire passer par une phase de compostage. Et pourquoi la vache, ça pose moins de problèmes? Bah, tout simplement parce que le fumier de vache, on va, alors, plus ou moins grossier, hein, on appelle plus ou moins décomposé, plus ou moins frais. On le met plutôt à l'automne. Donc, ça nous permet un temps certain, je dirais, avant la production de plantes, quoi. Donc, c'est pour ça
Et
que, voilà.
puis il y a aussi, alors juste on va puisque tu es dans cette thématique qui est des fois tabou, mais de fiente, de caca,
Ouais.
comme tu dis, de miam au final pour le jardin. C'est vrai que des fumiers issus d'herbivores, c'est pas du tout la même, j'allais dire, pardon, c'est pas la même mayonnaise, mais en gros,
Ouais.
c'est pas la même odeur. On va juste
Ouais.
comparer de la déjection de poule, bon, qui est très forte, la déjection de chien, de chat, avec de la déjection de vache ou de cochon ou de lapin, bon, il y a une catégorie, c'est un peu moins grave si on marche dedans, on a compris quoi.
Oui,
Ça sent beaucoup
non mais
moins. On
voilà,
mange pas de carnet.
ouais, c'est ça. De toute façon, c'est l'odeur qui est aussi très importante. Dès que ça va commencer à sentir fort,
Ouais.
c'est que c'est pas du compost, quoi. Voilà.
On est
Donc
d'accord.
voilà. C'est pour ça du compost d'œufs, de tous les déchets possibles, imaginables, organiques, qu'ils soient issus du monde végétal ou du monde animal, c'est du compost. Voilà.
Bon, mais après une certaine,
Voilà, un certain temps. Voilà. C'est pour ça
après un
que.
certain temps,
Voilà.
on est d'accord.
Par contre, que de. Alors bien sûr, les fientes qui vont arriver au mois de, par exemple, au printemps, quand on va nettoyer son poulailler, on va dire, mais à quoi on va les utiliser? Alors, ce qui est possible de faire, c'est de les mettre en tas, si on en a beaucoup, ou entre deux zones de bois, là, voilà, avec des planches, et de le mélanger avec les déchets du moment, des déchets grossiers du moment. Alors des fois, on n'en a pas, hein, alors c'est pour ça qu'on peut peut-être le mélanger avec de la paille, choses comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'à la base, on peut planter des courges, par exemple.
On est d'accord.
Voilà, parce que pendant ce temps-là, bah, le lixiviat, c'est-à-dire le jus de compost, va servir à nourrir. Et d'ailleurs, on sait très bien l'image un peu de la ferme qu'on avait à une époque où il y avait le tas de fumier et non loin, il y avait les courges qui poussaient voilà, d'une manière complètement dingue, quoi.
Bien. Charles termine son mail par merci les potageurs et longue vie à votre peau de caste supérieure. Voilà, peau de caste
Ouais, pas
supérieure. Nous
mal.
sommes. Nous, on n'est pas de caste supérieure.
Non, non,
Hein.
non, nous,
Mais bon, nous, on est très
on est, on
simple.
est, on est très peu castés, nous.
On est très peu casté, oui. Bon, allez, on va terminer avec Johanna qui nous dit bonjour Rick, bonjour Brigitte. Merci pour votre réponse à ma question il y a quelques semaines sur le mélange crottin-broyat de bois. Je reviens vers vous pour deux questions. Je souhaiterais implanter de l'osier dans mon jardin pour avoir
Oui.
des tiges et pour faire des haies et divers aménagements avec du
Oui.
saule vivant. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment procéder?
Alors déjà, il faut un secteur qui soit un peu humide. Voilà. Ça, sinon, ça a du mal à pousser, quoi.
À pousser,
Voilà.
d'accord.
Ça, c'est important, parce que si vous mettez une haie vivante de saule et il faut l'arroser sans arrêt, voilà,
Ouais,
c'est
c'est
pas
pas
le mieux,
intérêt, ouais.
c'est aucun intérêt, voilà.
Ok.
En sachant que aussi par rapport au saule, il faut faire un choix par rapport à la grandeur, voilà. Alors, et aussi la technique de gestion. Alors, bien sûr, on peut très bien travailler sur du saule taillé, hein, voilà, par exemple sous forme de saule têtard, qui est très joli aussi, voilà. Mais aussi le saule vivant, en le laissant complètement vivre sa vie, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est important aussi. Sur les saules tressés, quand on fait des fois des jolies clôtures avec des brins de saule, alors j'y oui. Mais attention, l'effet super chouette, il est souvent au début, quoi. Parce qu'après, quand on fait des croisillons de saules, ben,
Ça devient le bazar, quoi, c'est
ça
ça?
vient. Voilà, il
Ouais.
faut. C'est. Moi, des fois, je dirais une belle haie de saule têtard, c'est aussi joli. Par exemple, du saule osier, par exemple. Justement, celui qui est vraiment utilisé pour faire des liens et compagnie, c'est super intéressant. Et puis, il faut se dire, c'est que il y aura du déchet si vous les taillez, et il faut toujours l'utiliser. Donc, ça peut être votre part de déchets organiques sous forme de broyat, ça peut être génial. Ça peut être aussi pour du petit élevage, ça peut être la zone. Et puis, pour si vous voulez faire ce qu'on appelle de la vannerie sauvage, ça peut être l'utilisation. Alors, moi je dis toujours, il y a un point qui est intéressant, pensez osier avec du saule, mais vous pouvez penser aussi brin de vannerie avec par exemple aussi du cornouiller. Du cornouiller sanguin, du cornouiller masse, voilà, dont on peut manger les fruits sur le deuxième, les masses, mais pas cornouiller sanguin. Donc tout ça vous permet de jouer sur le bois, et qui est quand même très intéressant. Et saule et cornouiller, c'est quand même des plantes de terroir, entre guillemets. C'est des plantes qui poussent traditionnellement facile. Et aujourd'hui, par exemple, le cornouiller, il en existe des sortes et des sortes, hein, parce que. Voilà, il y a vraiment un engouement sur cette plante. C'est très simple, hein, c'est parce qu'elle pousse très facilement, très peu de maladies, puis elle a beaucoup d'utilisation, aussi bien comestible que à travers du petit aménagement, hein. Ma compagne fait du saule tressé, elle travaille là-dedans. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Et donc voilà, ça c'est le bon système, mais par contre il faut quand même faire un choix. Au début de ce qu'on veut comme saule. Voilà.
Ensuite, j'ai un talus de 1,50 m de haut le long de la route,
Ouais.
dans lequel il y a beaucoup de chiens, d'endorties, de renoncules et
Ouais.
de rumex. Je mets régulièrement une bâche plastique noire pour tuer ces plantes et que je désherbe, hein, et je les
Ouais.
herbe. Il me semble qu'il y a de moins en moins, mais quand même toujours beaucoup. Je me demande quelle plante couvrante avec un fort pouvoir de concurrence on peut installer à la place. Je pensais mettre de la facélie pour continuer à nettoyer et à terme mettre du trèfle. Pouvez-vous me conseiller? Je vous remercie.
Oui, mais facélie ou trèfle. Alors, trèfle, c'est une plante vivace, donc ça va permettre de limiter l'entretien, mais il faut savoir que au bout d'un moment, le trèfle, il n'y en aura plus, quoi, parce que les autres plantes vont prendre le dessus quand même, quoi. Et alors, là, justement, je reviens sur ce que je disais précédemment. Pourquoi ne pas mettre carrément sur ce talus du bouturage de cornouiller, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est ça permettrait. Je dirais de faire un lieu, je dirais, avec des arbustes qui sont en réalité des arbrisseaux, de manière à. Là, il y aurait vraiment une certaine concurrence qui va se jouer. Et au bout d'un moment, vous aurez un talus qui sera rempli de plantes qui ne sont pas trop grandes, avec un bois qui est quand même exceptionnel l'hiver et un feuillage qui est quand même assez dense l'été, quoi. Voilà. Ça peut paraître.
Donc du cornouiller.
Moi, je vois ça comme ça parce que facélie, ça veut dire que la facélie, c'est de la culture, hein, de plantes.
Oui, c'est
Donc
ça, oui.
voilà, ça va revenir. Ou de dire, bah voilà, je fais des semis de timbre-poste dedans avec de la facélie, d'autres plantes, je dirais, système prairie fleurie, mais en timbre-poste. Hein, c'est-à-dire, vous prenez la largeur d'une bêche ou de deux bêches, et puis comme ça, vous en plantez ici pour améliorer. Et puis vous laissez pousser votre talus, même s'il y a du chien dent, tant pis, hein, vous le laissez. Et puis à partir soit fin août, mais surtout début octobre, vous fauchez. Et puis ça vous permet d'avoir une espèce de talus herbeux, strat-herbacé, avec des fleurs dedans. Voilà, des fois c'est plus simple que des fois de s'échiner. Voilà. L'auditrice, elle pourrait nous envoyer une photo, parce que là, j'ai
Tiens,
du mal.
Johanna, envoyez-nous une photo,
Ouais, j'ai du
voilà.
mal à voir la situation. Voilà. Mais franchement, elle m'a donné, comme ça, en réfléchissant par rapport aux données qui ont été faites, moi je verrais bien un talus rempli de cornouiller. Et ici et là, des arbres un peu plus phalliques, ce que j'appelle, c'est-à-dire des trucs qui poussent un peu plus par au-dessus, de manière à donner un peu de mouvement à son talus. Et ça permettrait justement de mettre par exemple un noisetier ici et là, voilà, pas forcément partout, mais voilà, pour donner un peu de volume. Et là, ça ferait. Et là, elle a plus du tout aucun embêtement pour gérer. Et si elle travaille par exemple sur la vannerie sauvage et je dirais non stricte, hein, voilà, sauvage, bah là, elle produit de la matière. Donc c'est quand même super.
Bien.
Alors nous, on est là aussi pour faire des fois des relais vers d'autres éditeurs, éditrices, hein, voilà. Pour tout ce qui est vannerie, tout ce qui est, je conseille, les éditions du Terran.
Voilà. Ouais.
Voilà. C'est vraiment, ils ont un choix de bouquins là-dessus qui est vraiment exceptionnel, avec l'outillage aussi, et ça permet, sans être des grands vanniers, voilà, des grands spécialistes de l'osier, de pouvoir travailler des matériaux, et c'est vraiment là, vous avez, voilà, et notamment la revue qu'ils font, qui s'appelle le lien, j'ai un trou de mémoire, moi. Le lien, pas le lien social, mais si, le lien social, je crois.
Bon, édition, ouais. Édition du Terran. Voilà. Du Terran,
voilà. Voilà, c'est vraiment, voilà, avec Bernard Bertrand, tout ça, c'est vraiment, voilà. Et pour du petit arbrisseau, c'est vraiment super, 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 super.
Bien. Eric, je rappelle à tous nos éditeurs et nos auditrices qu'ils peuvent nous contacter, envoyer leur mail sur contact@monjardinbio.com. contact@monjardinbio.com. N'hésitez pas à nous envoyer des photos si besoin, et puis à partager aussi vos expériences, et on relance l'appel à tous les élus, petites ou grandes communes, villages ou très grosses communes qui sont peut-être de fidèles auditeurs, à nous contacter pour voir un petit peu et pour avoir aussi votre retour d'expérience. Voilà, si vous êtes en pleine phase de débitumisation, de désartificialisation, de réensauvagement, pourquoi pas. On en parle. Eric,
ouais.
Diviser pour mieux régner, c'est une formule dans le monde actuel qui existe, mais nous, on va multiplier par division. On inverse voilà. La tendance.
Donc ça, c'est pratique. En réalité, c'est vous avez un pied mère, voilà, et ce pied mère, au lieu de prélever un rameau et de le remettre pour faire du bouturage, ce qui est possible aussi dans certaines situations, là, c'est carrément, je prends le pied mère qui fait, par exemple, 50 cm de diamètre. Et le but du jeu, c'est que je le coupe en 2, en 3, en 4, en 5, de manière à avoir des micro-pieds. Donc, on va appeler ça des éclats. De manière à pouvoir les replanter en ligne ou en vrac. Et à partir de ce pied qui faisait 50, ben, en fin de compte, j'en ai peut-être 5 qui font plus que 10 ou 15. Voilà. Et ça redébarque. Alors souvent, pourquoi on fait ça ? Déjà, un, c'est pour multiplier, parce que ce qu'on va séparer du pied mère, dont les éclats auront les mêmes, caractéristiques que du gros pied qu'on a enlevé, mais ça va être aussi pour rajeunir le pied, parce que des fois, le pied est tellement serré que ça a du mal à se développer, donc le fait de l'éclater en plusieurs, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup... d'éclats qui vont, sur le tas de compost ou à la déchetterie. Parce que on rajeunit, on divise, pour faciliter la repousse de la plante, qui des fois se remet à fleurir, pousse mieux, voilà. Et puis après, c'est pour refaire un aménagement. C'est surtout ça aussi qui est intéressant. C'est le fait de, ça permet d'améliorer son aménagement ou d'agrandir son aménagement. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc globalement, il faut le faire quand le sol est bien essuyé, parce que sinon,
surtout pas maintenant.
Voilà, mais ouais. On en parle quand même parce qu'il faut y penser. Pourquoi ? Parce que en fonction du type du sol, si vous avez un sol qui est limoneux, sableux, bon, ça va, ça sera facile. Mais si vous avez un terrain qui est limoneux et surtout argileux, vous allez enlever une tonne de terre plus qu'autre chose. Donc ça sert à rien. Donc le principe, c'est de déterrer la fourche bêche. Comme ça permet de faire moins de casse au niveau des racines, tout simplement. Et puis une fois qu'on l'a sorti, on va le séparer, soit on le fait à la main pour des petits sujets, ou soit on le fait avec un outil tranchant comme une bêche, par exemple, affûté, pour couper en petits morceaux. Après, on va replanter les éclats en pleine terre, avec dans un milieu qui lui correspond. Ou on peut le mettre aussi dans des conteneurs, tout simplement. Alors ça peut servir parce que faut préparer ses futures troc plantes de printemps. Et puis après, on peut aussi le mettre ce qu'on appelle en réserve, des fois dans des grands pots, ces pots qu'on va remettre dans la terre de manière à faire des aménagements ultérieurs. Comme ça, il y a un enracinement dans le conteneur. Et après, on a des pots qui sont tout faits, en fin de compte. Alors, ça concerne un certain nombre de plantes. Vous avez par exemple la traditionnelle, celle que j'adore, moi, c'est la rhubarbe. Alors, la rhubarbe, bien sûr, sur le chiffre que je vais donner, il y en a qui me disent, Eric, t'exagères, parce que moi, j'arrive pas à en avoir de rhubarbe. Mais en réalité, il faudrait le faire tous les 4, 5 ans, 5 ans, 6 ans.
Donc, quand tu dis, attends, j'arrive pas à voir quoi.
Bah, il y en a qui ont dit, ouais, j'ai des plants de rhubarbe, ils n'arrivent pas à pousser quoi.
Ah oui, mais alors, c'est pareil. Alors, la mienne, elle doit avoir 30 ans, je pense.
Ouais.
Mais elle. Enfin, ça végète quoi.
Ouais, alors, faut un sol qui soit bien, voilà, bien matière organique, beaucoup de feuilles dessus. Et puis, il faut qu'il y ait de la place quoi. Des fois, la rhubarbe, elle est quoi, le long d'un chemin. Il y a une bordurette avant. Voilà, des fois, il y a même le mur du voisin de l'autre côté, et ça arrive que la rhubarbe manque un peu de place quoi. Parce que c'est une plante qui pousse beaucoup, quoi. Il faut qu'elle soit libre un peu partout. Et puis, il faut quand même un sol de qualité. Et puis surtout, des fois, on l'a tellement en pleine chaleur l'été, parce que c'est une plante qu'on va manger au printemps.
Ouais.
Et ce qu'il y a, c'est que, bah, après, on l'oublie un peu. Mais,
ouais, elle morfe en été, quoi.
Elle morfe en été. Et c'est pour ça qu'elle repousse pas. Et en plus, on a peut-être trop prélevé. Donc,
il
faut pas oublier qu'il faut quand même laisser des feuilles pour que ça puisse pousser. Donc, tous les 5 ans, bah, on peut la sortir. Et puis, on tranche. Avec une bêche bien affûtée et surtout en gardant le maximum de racines. Et puis après, on replante les éclats, hein, c'est-à-dire les morceaux avec. Donc on le voit très très bien parce que ça fait des gros bourgeons. Alors si on peut avoir 2-3 bourgeons quand on éclate, c'est beaucoup mieux que 1. Et puis on les plante tous les 1m20 dans un sol qui est riche en matière organique, puis on couvre de feuilles mortes. Voilà, c'est ça le but du jeu.
Okay.
Alors vous avez l'autre que moi j'aime bien, mais que, voilà, qui est moins utilisé, sauf pour si on est fan de cette plante. C'est ce qu'on appelle l'oseille. Alors l'oseille, l'idéal, faut le faire, parce que l'oseille, elle pousse très très vite. Donc il faut vraiment la diviser tous les 3 ans, surtout si on le met en bordure. Voilà, ça peut être une plante très intéressante de bordure. Donc c'est pareil, hein, une fois qu'on l'a sortie, on tranche les souches avec un gros couteau, ou un grand sécateur, ou à la bêche. On enlève un peu de feuilles en surface, c'est-à-dire on laisse que les pétioles, pour faire simple, les tiges des feuilles. Et puis les racines, on enlève genre 8 cm, parce que c'est quand même une racine importante. Et puis après, on les replante en ligne sur un sol qui est riche et tous les 50 cm. Alors souvent, dans la littérature, on met 30 cm, mais 50 cm, ça permet vraiment d'avoir du beau volume. C'est ça qui est intéressant parce que si on met trop près, ben, c'est vite bouché. Quoi. Alors il y en a une autre aussi qu'on le fait, mais c'est un mode de fonctionnement différent, c'est la ciboulette. On a l'impression qu'un pied de ciboulette, c'est un pied de ciboulette, mais en réalité, c'est plein de petites ciboulettes. Et ça, on peut le faire tous les 2-3 ans. Donc là, pareil, on utilise toujours la fourche bêche qui est vraiment pratique. Puis on coupe avec un couteau, voilà, en 3-4 parties. Et on fait un compte à partir d'un pied de ciboulette. Ben, vous en avez 4, en sachant qu'on va les planter tous les 30 cm. Ben, donc vous avez un pied et vous le coupez en 4 et vous avez 1m20. Donc ça vous fait vraiment des bordures de ciboulette. C'est vraiment super intéressant. Et des fois, un de ces pieds, ben, vous pouvez le mettre en pot, tout simplement, soit pour l'offrir ou pour vous. Mais il faut mieux avoir de la ciboulette en pleine terre, voilà. Mais vous pouvez le mettre dans un pot assez large, riche en matière organique.
D'accord.
Alors vous avez une autre qui est une envahissante, qu'on appelle la mélisse citronnelle, hein, parce que quand on en a.
Ben
on en a
oh pas, non, mais là c'est une catastrophe, voilà. Ça.
Donc ça aussi, alors ça peut être intéressant des fois, la mélisse citronnelle, je trouve. Déjà, moi c'est une plante que j'adore, hein. Bon voilà, principe. Mais moi je l'aime bien, pourquoi ? Parce que quand vous avez des zones impossibles, là, vous savez pas quoi mettre, truc, bah,
ouais, tu mets ça colonise quoi.
Voilà.
C'est... Bon, c'est pas mellifère, Eric, hein.
Bah si, il y a de la bestiole, mais je veux dire, c'est un bon couvre-sol, la gestion est vraiment simple, c'est pas trop moche.
Les poules adorent ça. Hein.
Oui.
Pour le coup.
Voilà, et puis souvent, ben, c'est même si on s'en rend pas vraiment compte, ben, voilà, quand c'est l'humidité du matin, par exemple, un peu de fraîcheur, ça quand même, ça sent très très bon. Donc là, je vous conseille de le faire tous les 3 ans. Alors là, faut être un peu, alors là, vous pouvez être même un peu bœuf, hein, c'est-à-dire vous coupez en 3 ou 4 morceaux votre grand pied, et ça va repartir, hein, parce qu'à la fois, ça, c'est par division, la multiplication, mais là, c'est par aussi, ça fait du bouturage, enfin voilà, et puis vous le mettez tous les 50 cm, et c'est vraiment parfait.
Pas.
Alors pareil, dans la mélisse citronnelle, il y a des pieds qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien. Alors, c'est pareil dans la multiplication, que ce soit par division, par bouturage, par marcottage. Ne multipliez ce que vous aimez bien et ce qui est le plus efficace. Hein. Parce que des fois, on a tendance à multiplier tout et n'importe quoi. Mmh. En fin de compte, on multiplie des fois des choses qui sont moins intéressantes et on peut faire aussi une sélection nous-mêmes à notre échelle pour les différentes plantes. Alors après, vous avez toutes les graminées, parce qu'il y a vraiment un engouement pour les graminées, notamment dans les aménagements des communes. Donc là, on peut utiliser différents matériaux parce que des fois, quand on voit qu'on a des miscanthus qui sont énormes, là, on va mettre un petit peu de sueur. Hein. Donc bien sûr, le miscanthus, je vous le rappelle, hein, moi j'appelle ça l'herbe à mammouth, là, vous coupez à ras pendant l'hiver, et c'est là qu'il faut en profiter pour sortir une touffe. Alors sortir une touffe, c'est pas simple. Hein. Donc il faut faire.
Non, je te confirme.
Il faut commencer par une tranchée. Non mais quand je dis une tranchée, c'est un fer de bêche de tout autour. Et après, avec ça, vous faudra utiliser des moyens pour lever la souche, qui est pas une bêche ni une fourche bêche, parce que vous risquez de casser le manche, mais plutôt des baramines, hein, carrément des trucs. Voilà, c'est pour ça que il faut faire des grandes, de grandes profondeurs de tranchées pour de manière à arriver bien en dessous. Si vous êtes que sur le côté, ça suffit pas pour la soulever, hein, il faut vraiment passer par en dessous. Voilà. Alors là, on commence à être dans plutôt dans l'ornement. Bah, là aussi, il y a les fameux asters, hein, qui ont fini de fleurir à l'automne. Alors les asters aussi, hein, y en a, ils en ont ras-le-bol. Alors c'est vrai, les anciens asters qu'on avait dans les jardins très hauts, mais aujourd'hui, des asters, il y en a toute une flopée. Et là, je vous invite à utiliser cette plante. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui est vraiment une floraison d'automne, qui est super intéressante. Ça tient bien le sol, c'est vraiment efficace. Et puis, comme dit, maintenant, il y en a des petits, des grands. Et puis, même si vous avez des grands qui vont pousser des hauteurs au-delà des 50-60 cm, ce que je vous invite à faire, c'est au courant de saison, quand ils commencent à faire 30-40 cm, bah, vous les rabattez. Voilà. Et à partir de là, ça va redémarrer. Ils seront beaucoup moins hauts et ils vont être aussi autant fleuris. Donc là, c'est pareil. Hein, on replante tous les 50 cm. Et enfin, je finirai par l'iris parce que là, c'est vraiment une liste comme j'aime. Hein, c'est pas... Il y en a plein d'autres de ces types de plantes. Il y a les iris. Et là, les iris, il ne faut pas le faire du tout à cette période-là. Il faut le faire en été.
Et on invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à consulter notre blog. Mmh. Tapez iris. Il y a un article sur justement la multiplication en été pour multiplier cette plante. Encore une fois, ce n'est pas maintenant. C'est vraiment en été qu'il faut le faire. Donc, rendez-vous sur notre blog.
Alors, bien sûr, là, il y a toutes les plantes de rocaille qu'on peut faire en ce moment. Hein. Mmh. Je vous rappelle, une plante de rocaille, c'est entre 3 euros et 6 euros le pot, hein, le godet, quand vous allez les acheter. Notamment toutes les plantes type plantes succulentes, hein, les plantes grasses, hein, on coupe, on sépare, on remet, on met un peu de terre dessus, ça repousse. Hein, voilà. Et il ne faut pas oublier souvent à les multiplier comme ça, à les diviser, ça permet de régénérer les pieds, comme dit, alors redonne de l'espace. Et surtout, ce qui est intéressant, et ça notamment pour les asters, j'ai oublié de le préciser, c'est que dans les asters, des fois, il y a des trucs qui poussent dedans. Et le fait d'enlever la souche, ça vous permet de bien nettoyer justement la touffe en enlevant les plantes qui ont indésirables qui ont poussé dedans. Sinon, on n'y arrive pas. C'est très compliqué. Donc, profitez des multiplications pour bien nettoyer l'ensemble et surtout enlever le maximum de plantes indésirables qui ont poussé dedans.
Bien, donc nettoyer effectivement, et puis on va le rappeler aussi parce que c'est même si on n'a rien du tout contre les pépiniéristes et on a toujours, je pense, nos horticulteurs, etc. Mais la division, la multiplication, le bouturage permet aussi de faire des économies, même si c'est un réel bonheur de se balader dans les jardineries. L'un ne va pas sans l'autre, mais voilà, on va le rappeler aussi, c'est très simple pour.
De toute façon, par rapport à ça, ce qui est important, c'est aller surtout sur ce qui pousse bien dans votre jardin. Alors des fois on dit bah oui j'ai un peu la même chose, ouais mais si ça pousse bien, moi je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis autorisez-vous quand vous allez chez le pépiniériste. Moi je trouve acheter du forsythia banal chez un pépiniériste, je trouve ça un peu ridicule. Achetez un truc qui vous plaît, voilà, un peu même exotique. Hein. Quand je dis exotique c'est très horticole, mais c'est pas grave, dans votre jardin, moi je suis vraiment pas de celui qui dit dans le jardin on met que de la plante sauvage, hein. Pas du tout. On a des siècles de générations de pépiniéristes et autres. Ça fait plaisir, ça fait du bien de voir une fleur rose et verte. J'en sais rien, je m'en fiche. Hein. Voilà, faites-vous plaisir. Mais sur le commun, des fois, une bonne multiplication. Alors quand je dis fois de votre jardin, mais ça peut être aussi le voisin. Si ça pousse bien chez le voisin, ça doit bien pousser chez vous. Et moi, je m'en rappelle, j'avais fait une opération un jour sur l'aménagement de jardin. C'était, parce qu'on n'avait pas de plantes, et j'avais lancé un message dans la commune pour dire, si vous, habitants, quand vous nettoyez vos plantes, vous avez des surplus, au lieu de l'amener en déchetterie ou le composter, amenez-le dans cet établissement, hein, c'était une structure de personnes handicapées, je me rappelle, et on avait mis une palette avec une étiquette, merci pour vos dépôts de plantes, et là on avait eu des plantes de partout, et ça nous avait permis de récupérer des plantes et d'utiliser des plantes qui poussent dans le terroir. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire sur le même secteur. Et là, vous avez voilà, une reprise obligatoire. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce partage fait, sans faire de concurrence aux pépinières, ça n'a rien à voir, de dire, tiens, au lieu de le jeter, ça a servi. Voilà, c'est intéressant.
Bien, avons-nous fait le tour de la...
multiplication par division, non, parce qu'il y a plein de plantes.
Multiplication par division, non, parce qu'on peut... Non, mais le tour de la question.
Le cours de la question, oui, hein, c'est surtout, il faut s'autoriser. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir justement penser, sans aller acheter, peut-être qu'on peut réaménager son jardin.
Et puis, il y a un point dont tu n'as pas dit, hein, on peut regarder aussi avec les voisins.
Oui, c'est ça, c'est important.
Et inversement, c'est-à-dire de proposer éventuellement des choses entre voisins ou entre clubs de potager, enfin club potager, club de jardin, voisins, connaissances, etc. Enfin, c'est intéressant aussi de diviser, de reprendre, et ça fait toujours plaisir aussi pour les cadeaux de Pâques, j'allais dire. Pourquoi pas, Noël un peu passé là, mais pourquoi pas. Bien, Eric, merci en tout cas pour ce conseil, pour ce dossier consacré donc à la multiplication par division. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast, premier podcast de l'année 2024. Mais avant cela, on ne change pas les bonnes habitudes.
Non, le faux dicton.
Le dicton du jour.
Voilà, on a déjà fait des jeux de mots sur cette division.
Sur ce sujet, oui. Sur ce
sujet. C'est au jardin, c'est grâce à la division qu'on multiplie.
Voilà. Écoute, si ça peut rajouter un petit peu de positif, parce qu'en général, quand on divise, il n'y a rien de positif.
Alors, surtout en ce moment. Hein,
surtout en ce moment.
En ce moment, je veux dire, alors je sais que l'eau, c'est important, mais bon, je vois en Alsace, on a des périodes ensoleillées, on n'en avait pas eu 50 000. Hein, voilà. Mais la pluie, c'est important, hein, je le répète. Mais plus, c'est un petit quotidien, je dirais, au niveau de l'information qui n'est pas forcément les plus joyeux. Allez, regardez quand même votre jardin, faites des choses, c'est important.
Allez, et puis en attendant, rangez éventuellement l'abri de jardin.
Oui, c'est ça.
Ou trier les outils, ou entretenir les outils. Enfin bref, occupez-vous. Après, on a le droit de glander aussi, c'est pas mal. On sera suffisamment sollicité cet été. Merci, Eric. On va terminer en rappelant bien sûr Instagram, Facebook, la newsletter, le podcast, le blog, bref, tout le monde.
Ouais, et puis ce qui est important, ta remarque, je la reprends, c'est pas pour te faire plaisir, mais c'est vrai que on a souvent des retours d'auditeurs, auditrices qui sont plutôt des particuliers, des jardiniers, des jardinières. Et c'est vrai, si des fois il y avait des projets associatifs, des collectivités, des communes, des retours, voilà. Le podcast sert aussi à ça, parce que je dirais que l'habitant sans la commune, la commune sans l'habitant, ça devient très compliqué. Et voilà, on est prêt à échanger là-dessus et surtout à reprendre des informations.
Parlons-nous évidemment. Eric, le mot de la fin, il est pour toi.
Le mot de la fin, c'est, je reprends ce que tu as encore dit, c'est-à-dire on a le droit de glander, parce que là, c'est vraiment compliqué d'aller au jardin.
Bon, allez, ça marche. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.